Alain Gignès, pour cette troisième partie, comme c'est promis et on a mis l'eau à la bouche, je l'espère, des auditeurs, on va parler de la truffe parce que, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez de la truffe naturellement sur votre commune. Vous êtes également, je crois, le président audois des trufficulteurs.
Oui, tout à fait.
Et un certain nombre de manifestations chez vous et ailleurs se sont développées. Pas plus tard que ce dimanche 6 mars, il y a ce que vous appelez truffe et patrimoine, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est un marché qui se déroule alors alternativement sur la commune de Villeneuve, de Trassanel et de Cabrespine.
Tout à fait.
Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
Ben, truffe et patrimoine, c'est la clôture des marchés aux truffes de l'Aude. Alors, ça se passe effectivement, ou sur Trassanel, ou sur Cabrespine, ou sur Villeneuve. Dimanche, ça sera à Villeneuve. La confrérie sort, va faire la messe à la truffe. Voilà, les
truffes. Alors, vous avez une confrérie avec un beau titre occitan, l'Ustrufa Eres de Milono del Menerbes.
Exacto. Oui, effectivement, il y a une confrérie qui fait la promotion, qui était dimanche dernier, pas celui-ci, mais le dimanche encore avant, à Casseondari, avec la confrérie du Cassoulet, qui faisait aussi la promotion, eux, de la haricot de Casseondari, et nous, bien sûr, de la truffe d'Oise. Donc, la confrérie, il la faut aussi parce que c'est des moments particuliers, et puis c'est là où on porte un produit noble, et notamment en ce qui concerne la truffe, bien sûr, la mettre en avant et puis la revaloriser sans cesse, parce que c'est tout le travail que fait la confrérie en le rappelant toute l'année, pratiquement.
Mais oui. Alors, le truffe est un mot que tout le monde connaît, mais que finalement beaucoup de gens analysent assez mal. Alors, le nom savant en latin, c'est apparemment tuber melanosporum.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que c'est la truffe ? C'est un légume ? C'est quoi ?
Non, c'est un champignon souterrain.
C'est un champignon souterrain.
Voilà. Qui, parfois, est référencé, effectivement, on le retrouve sur les marchés avec les légumes. Mais c'est un champignon avant tout. Voilà. Il y existe près d'une centaine d'espèces de truffes.
Ah oui, quand
et
même.
Et oui, il y en a qui sont comestibles.
La truffe, mais...
Et oui, il y en a qui sont comestibles, d'autres pas. Et nous avons la chance d'avoir chez nous la tuber melanosporum, la truffe noire d'hiver, la tuber estivum, la truffe blanche d'été, qui mûrit de mois de mai au mois de juillet. Nous avons aussi la tuber incinatum, truffe de Bourgogne qui vient en fin août, septembre, octobre.
Qui pousse chez nous aussi.
Qui est chez nous parce qu'elle pousse à une altitude du côté des Pyrénées, sur les hauteurs des Pyrénées, de la montagne noire. Et communément, on l'appelle truffe de Bourgogne. Alors quand on connaît la région de Bourgogne, humidité des bois, un peu d'altimétrie, ben on se retrouve les mêmes conditions identiques sur les hauteurs de nos montagnes à nous. Ah, donc oui. Voilà, on a cette chance et cette richesse d'en avoir trois identifiés, qui sont trois truffes majeures au niveau de France, et je dirais même Europe. Même s'il faut pas oublier nos amis italiens qui ont la tuber magnatum, qui est la truffe haut de gamme en Italie, ils l'ont chez eux. Et là, ils font la promotion au niveau du monde.
Oui, voilà. Ben, la cuisine italienne n'est pas à négliger non plus.
Non plus, mais la cuisine française est bien meilleure quand même.
Alors, la truffe, donc, ce fameux champignon qui ravit les gourmets, qu'est-ce qu'on en sait sur le plan historique ? Depuis quand les hommes connaissent et apprécient la truffe ?
Alors, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de légendes sur la truffe. Vous savez, au tout début, il y en avait beaucoup, et ça nourrissait même les cochons. Voilà, pour tout vous dire.
Les vénards.
Voilà, c'est pour ça que, quelque part, il y a des endroits où encore, mais c'est un peu plus pour le folklore, les gens ramassent avec un cochon.
Ah,
là-bas,
oui,
ça nourrissait. C'est dire que c'était pas du tout dans les mentalités, dans les mœurs, rien. Et puis, il est passé des personnes qui se sont intéressées un peu plus à la truffe de Louis XIV, qui était déjà un précurseur, qui avait compris la subtilité de la truffe. Alors on y attribuait plein de choses à la truffe, des pouvoirs, notamment pour l'homme.
Et des pouvoirs sexuels.
Sexuels, on a tout entendu, c'est aphrodisiaque, c'est ici, c'est là-bas. D'autres, par contre, on la combattait, parce qu'on disait que c'était le rhône des sorciers, puisque le rhône du sorcier, c'est là où c'est que l'herbe ne pousse pas, ça veut dire autour de l'arbre qu'il y a normalement de la truffe. Tout au moins, c'est un bon signe pour avoir de la truffe. Donc on a tout entendu, c'est-à-dire que celle-là, presque fallait la jeter, c'était le diable. Mmh. Voilà, donc toutes les histoires sont passées par là. Mmh. Et effectivement, maintenant, depuis un siècle à peu près, elle est quand même... c'est le produit phare hein, de la gastronomie. Vous savez, il reste le caviar. Hein.
Oui, voilà. Voilà. Mais c'est entré à ce niveau-là il y a à peu près un siècle.
À peu près que là, vraiment, elle a été identifiée en tant que telle. Et alors là, elle a pris vite des prix presque trop élevés. Il a fallu que nous, maintenant, ces derniers temps, on la démocratise, qu'on puisse dire, mais attention, tout le monde ne peut en acheter. Tout le monde ne peut se faire plaisir. Parce que ça marche pas au kilo. Ne regardez pas le prix au kilo. C'est avec quelques grammes, et il faut en gros, je tiens à le rappeler, entre 3, 4 grammes par plat, par personne, pour se faire plaisir avec la truffe.
Oui, c'est vraiment quelque chose de...
Avec les produits les moins chers. Et voilà, ça se travaille avec parcimonie. C'est un peu comme quand on sale. Il faut jamais mettre trop de sel. Il faut mettre juste ce qu'il faut. La truffe, c'est pareil.
Ah oui, il faut des balances d'horloger pour travailler.
Et il faut, après, il y a les professionnels qui savent faire. Ils vous diront pas tout aussi.
Et alors, quand on va chercher la truffe, notamment lorsqu'elle pousse naturellement, quand elle est cultivée, c'est différent. Alors, je crois qu'il y a un terme qui s'utilise, c'est cavé.
Cavé, tout à fait.
Ça veut dire rechercher.
C'est le ramassage.
C'est le ramassage.
Oui.
Et alors, vous parliez d'un port. De cochon pour aider à la trouver. Est-ce qu'il y a des chiens dont on sait qu'ils ont un odorat particulièrement développé? Est-ce qu'il y a des chiens truffiers?
Oui. Mais vous savez, le charme du trufficulteur, au-delà de planter ou de faire de la découverte du chêne truffier qui lui donnera peut-être des truffes pendant quelques années et puis ça sera aléatoire, on ne sait jamais, il y a aussi le trufficulteur, lui, il est très attaché à son compagnon. À son chien. Souvent, il se l'éduque. Il le forme un peu comme le chasseur. Il y a des chiens que vous pouvez acheter qui sont déjà formés. Pas la même saveur.
Et ça, vraiment, ça a l'efficacité dans la recherche.
Ah oui, c'est très performant. Regardez les chiens qui aident les douaniers.
Ah oui.
Voilà,
c'est pas la même marchandise.
C'est pas la même marchandise, mais ça marche quand même au gramme. Mais je dirais pas pourquoi. Je veux dire que par là, il y a toute cette éducation avec son chien, lui apprendre à truffer, à ramasser des truffes. Voilà. Et le trufficulteur, vous savez, il y a toute une façon d'aborder la trufficulture. Il n'y a pas que la plantation et attendre ses premières truffes. Il faut bichonner ses arbres. Mmh. Une fois que les arbres commencent à marquer, il faut penser à avoir un chien à ses côtés pour pouvoir les ramasser. Mmh. C'est un tout.
Oui, c'est un tout. Parlez d'arbres. Ce sont quelles espèces d'arbres?
Mais essentiellement, dans l'Aude, c'est quand même le chêne vert.
Ce qu'on appelle en occitan l'ausino.
L'ausino, le chêne kermesse, le chêne vert.
La
garouille, c'est un peu plus le chêne rampant. Voilà, la garouille. Après, il y a carrément le chêne. Donc, le chêne en lui-même, c'est le chêne vert. Il y a quelques chênes blancs, mais ça, on les a déjà naturellement. Moins sur le Piémont, un peu plus en montagne, le chêne blanc. Voilà, c'est des essences qui déjà poussent naturellement chez nous. Et nous, chaque fois que nous faisons mycorhiser des arbres dans les pépinières, parce que nous faisons des mycorhiser des arbres avec des plants au doigt que nous avons une labellisation, puisque nous fournissons la terre, les truffes de chez nous, de l'Aude, ainsi que les jeunes pousses ou les glands hein, qui sont ramassés sur les chênes truffiers pour les reproduire. Nous avons tout un processus en place avec les pépiniéristes. Eh bien, on reste quand même avec ce qui existe déjà naturellement chez nous, c'est-à-dire essentiellement le chêne vert. Et le kermesse qui la garouille.
Voilà. Et il paraît alors du côté de la Narbonnaise que dans la Clape, il y a aussi une truffe qui est un peu différente.
Oui.
C'est la
blanche.
Vous avez
la truffe blanche d'été, la Tuber estivum, qui vient du mois de mai à juillet, qui est aussi naturellement.
Alors, il faut remarquer que, bon, on parlait d'un siècle d'évolution, mais il me semble que ces dernières années, il y a eu un épanouissement, un développement encore plus fort de la truffe, du marché de la truffe, de la connaissance de la truffe, au point que, par exemple, la commune de Vinassante, au pied de la Clape, envisage, je crois, à partir du 18 juin prochain, envisage de faire aussi un marché de la truffe blanche.
Oui, tout à fait. Vinassante s'est proposé à notre association des truffes agriculteurs de l'Aude. Moi, j'en suis bien content parce qu'il fallait qu'on ait une ville ou un village référent au niveau du Narbonnais. Et c'est mon collègue et ami Didier Aldebert qui m'a fait cette proposition. Et on est en train de monter une programmation, justement, chez eux, pour mettre la truffe blanche d'été en avant. Elle y est, elle existe. C'est à nous d'en faire aussi la promotion. C'est notre rôle au niveau des trufficulteurs de l'Aude, de l'association des trufficulteurs.
Voilà, donc ça reste à explorer un petit peu ce côté-là.
Ça reste à explorer, même si déjà on a bien avancé quand même sur la recherche, l'expérimentation. Nous avons bien avancé. Et c'est bien qu'après, il y ait un événement qui soit porté pour informer. C'est ça aussi la communication.
Oui, bien sûr.
Nos audoises et nos audoises, nous disant, regardez, c'est bien de chez nous. C'est à nous, ça nous appartient, et c'est à vous aussi de nous aider à en faire la promotion.
Mmh. Voilà. Et dans la notion de promotion et de marché, je crois qu'il y a certaines normes, certaines règles auxquelles vous êtes attachés pour que, justement, l'image et du sérieux de la truffe reste bien ancrée dans les têtes.
Oui, il y a des marchés de gros. Les marchés de gros, ça, on n'a jamais voulu rentrer dans ce schéma-là. On est sur des marchés de particuliers. C'est-à-dire que tous nos marchés, toutes les truffes, une à une, sont contrôlées. Et ça, nous y tenons. J'ai des collègues qui font ça gratuitement, qui sont là présents sur tous les marchés, qui contrôlent truffe par truffe. Ce qui veut dire que depuis 20 ans que nos marchés aux truffes de l'Aude existent, on n'a jamais eu une seule réclamation. Nous ne vendons que des truffes haut de gamme qui ont été triées auparavant. C'est-à-dire que les producteurs amènent leur lot de truffes. C'est tout contrôlé, vérifié, et ça passe à la vente. Et ça, c'est quelque chose qui fait la force certainement de notre département. Ça se pratique pas ailleurs. Hein.
Voilà, c'est le gage de qualité,
voilà.
Finalement.
Et ce que j'aurais tendance à dire aux audoises et aux audois qui peuvent y aller tranquillement acheter leurs truffes, tout est contrôlé, tout est à 100% vrai. Voilà, il n'y a pas de tricherie. Allez sur nos marchés. Attention aux petits faiseurs, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui achètent et qui revendent de la truffe. Ça, c'est un fléau.
Les revendeurs.
Ils achètent un peu partout, pas que chez nous en France, et puis ils viennent contrarier nos marchands en proposant des prix dérisoires. Attention à la truffe qui vend.
Vous arrivez à dépister ça ?
On sait. Dépister, c'est beaucoup plus compliqué, mais on sait que ça existe. Et c'est des marchés parallèles, c'est tout nouveau, ça fait une paire d'années, puisque la truffe, on l'a mis quand même en haut... on la porte,
oui, voilà,
à bout de bras, et il y a une belle image au niveau de l'Aude.
Presque vénérable.
Et voilà, vous voyez, il y a des personnes qui viennent rien que pour le profit financier.
Forcément.
Voilà. Et ça, c'est malheureux, ça, le combat. Et je voudrais dire à tous ces gens, venez vers nous, parce que ce que vous voyez sur le marché, certes, vous voyez, comme pour l'iceberg, on voit 5%, 10% de ce que représente la truffe audoise. Après, il y a 90% qu'on gère pas, qui se passe dans les coffres des voitures.
Mais
ça,
voilà,
c'est un autre niveau. C'est des négociants. On n'est plus dans la même démarche. Mais on a beaucoup de petits faiseurs. Attention à toutes ces personnes qui vous proposent de la truffe.
Voilà. Et bien, c'est là-dessus qu'on va conclure. Les marchés qui sont vraiment contrôlés par vous, par votre association, sont crédibles parce que, en quelque sorte, vous faites ce qu'il faut pour ça.
On y met les moyens.
Merci Alain Gignès. Notre prochain invité de Radio Barque sera Didier Codorniou. Alors lui, c'est le maire de Gruissan. Bon, on va rester un peu dans le tourisme, mais surtout, il est premier vice-président de la région Occitanie, président du Parlement de la mer. Alors on va voir un petit peu tout ce que cela implique également. Merci à vous Alain Gignès.
Merci à vous.
Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Rendez-vous à la semaine prochaine.
Merci.